La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui mardi, deuxième temps de notre série consacrée à l'écrivain Hervé Guibert, rendu célèbre en 1990 par son livre « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, un livre qui venait approfondir le sillon autofictionnel qui était sa marque de fabrique, en racontant non seulement sa maladie, le sida, mais également celle de Foucault, dont il était un proche. Et un an après ce récit, qui constituait par bien des aspects une petite révolution littéraire, Hervé Guibert disparaissait à l'âge de seulement 36 ans, comme nous l'a raconté hier son biographe Frédéric Andreau, au cours d'une émission à retrouver en podcast. Jeudi, nous recevrons les écrivains Mathieu Simonet et Bénédicte Haim qui nous parleront en première partie de leur rapport personnel à la littérature de Guibert. Puis nous entendrons la journaliste Brigitte Ollier qui a recueilli des souvenirs de personnes ayant croisé son chemin. Enfin demain, c'est du photographe Guibert dont il sera essentiellement question. Ce sera avec Arnaud Genant, lequel reviendra aussi sur la notion de postmodernité dans son œuvre. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour tenter de décortiquer un peu l'œuvre de Guibert, nous sommes avec Bruno Blankmann, professeur de littérature contemporaine à l'Université Paris 3 et auteur notamment d'un essai intitulé « Les récits indécidables, Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard », publié en 2008 aux éditions du Septentrion. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
C'est quand j'écris que je suis le plus vivant. En m'endormant, je repense à ce que j'ai écrit dans la journée. Alors certaines phrases reviennent et m'apparaissent incomplètes. Une description pourrait être encore plus vraie, plus précise, plus économe. Ou il y manque tel mot. J'hésite à me relever. J'ai quand même du mal à descendre du lit, à chercher dans le noir, à tâtons, la lampe de poche à travers la moustiquaire. Ramper sur le côté au bord du matelas, comme me l'a enseigné le masseur, et laisser tomber doucement mes jambes jusqu'à ce que mes pieds rencontrent la pierre nue. Et puis, allumer une bougie, chercher la bonne page dans le manuscrit et perfectionner par un ajout ou une biffure la phrase en question. Voici sinon. Est-ce que je retrouverai demain le mot qui me manquait aujourd'hui ?
Extrait du protocole compassionnel lu par Patrice Chéreau. Bonjour Bruno Blankmann.
Bonjour.
L'écriture jusqu'à la fin, ce sera la grande affaire d'Hervé Guibert. On a même l'impression que écrire pour lui, c'était plus important que sa vie même.
Oui, l'écriture et la vie se rejoignaient dans l'œuvre de Guibert. C'est-à-dire que la vie, forcément, inspirait l'écriture, mais en même temps, l'écriture relayait la vie. Surtout à partir du moment où il s'est su non seulement malade, mais condamné. Il faut imaginer quelqu'un qui, à 32-33 ans, apprend qu'il n'a plus que 2 ou 3 ans à vivre, ce qui a été le lot de milliers et de milliers de personnes dans ces années-là, à la fin du XXe siècle. Mais quelqu'un qui, à la différence de toutes ces personnes, est déjà écrivain et travaille déjà la matière de sa propre vie, écrit depuis cette matière pour en faire une sorte de version fictionnelle.
Donc le sida, la maladie, vient accélérer, catalyser une écriture qui est déjà là, qui est déjà extrêmement maîtrisée, et puis une façon de se mettre soi-même à l'intérieur de ses romans.
Voilà, et puis elle est le sujet absolu, je dirais, dans cette œuvre et par rapport à ce projet. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie dont on ne sait strictement rien à l'époque. C'est une espèce d'inconnu, hein, d'inconnu pathologique, mais aussi d'inconnu social, d'inconnu culturel. On ne peut pas la décrire, on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la soigner. Et ce sont toutes ces dimensions-là qui vont être projetées par Guibert dans les récits qu'il consacre à son sida. C'est-à-dire qu'il va donner un visage humain à une maladie qui effraie la collectivité, à une maladie qui, dans certains pays, est proscrite. Hein, on parle de sidatorium dans certains pays totalitaires. Et humaniser cette maladie, humaniser la figure du malade en lui donnant un corps, en lui donnant des histoires et surtout en lui donnant un style, c'est aussi, par ce style, résister à l'échéance.
Vous diriez qu'il a changé la manière dont les Français ont vu cette maladie à cette époque-là ?
Alors, le livre « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie » a eu un succès considérable, colossal même, au prix d'ailleurs d'un malentendu. On a lu ce livre comme un document à l'état brut, alors que c'était un texte littéraire qui se servait du document privé pour poursuivre et radicaliser une œuvre de connaissance de soi, hein, de connaissance sans tabou.
Mais c'est aussi un document, c'est les deux à la fois.
Mais c'est aussi un document, et c'est un monument, pour reprendre la distinction qui ici finalement devient fausse, du grand ami de Guibert qui était Michel Foucault. Donc effectivement, alors on ne peut pas dire que ce livre ait changé la représentation du sida, il a participé à créer une représentation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus mesurée du sida. Il a mis un regard, une voix, une histoire sur le sida.
Mais au fond, on a pris Hervé Guibert comme l'écrivain de la maladie, l'écrivain des hôpitaux aussi, alors qu'il est sans doute d'abord et avant tout l'écrivain de lui-même, et en cela il n'y a pas tellement de rupture finalement avec son écriture passée au moment où il est malade.
Alors, on a pu dire, c'est peut-être un peu exagéré, et c'est surtout peut-être un peu léger par rapport à la densité humaine que recoupe cette expérience, mais on a pu dire qu'il avait trouvé avec le sida un sujet à sa hauteur.
Et comme s'il l'attendait d'ailleurs.
Alors ça, c'est aussi une sorte de version mythologique que lui-même semble accréditer parfois. Parfois, c'est-à-dire dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie », dans les textes qui renvoient à un certain état de la maladie, qui est un état d'équilibre entre vie et mort. Là où l'individu est encore maître de lui-même et surtout de sa capacité à écrire comme il veut, autant de temps qu'il veut, et ne pas avoir à résister à la fatigue et à la maladie elle-même, qui interdit assez rapidement trop de temps, pour des raisons de fatigue, à consacrer à l'écriture. Mais de fait, il y a véritablement l'intégration du sida dans un projet littéraire qui est beaucoup plus ancien et qui date de ses débuts, qui est, de l'image fantôme, qui est comment décrire une vie et comment décrire une personnalité à même sa propre vie. Ce qui semble évident ne l'est pas. À partir du moment où on ne limite pas la vie aux seules expériences de la conscience, à partir du moment où on part du principe que le sujet, l'individu, est toujours confronté à des choix et qu'en actualisant certains, il s'en interdit d'autres, le but de l'écriture chez Guibert, ça a été toujours, dès le départ, de multiplier des expériences qu'il avait vécues en les dédoublant par une version écrite, mais aussi en les réinventant, en montrant comment, par exemple, s'il avait adopté telle réaction dans telle situation, ça aurait donné une autre possibilité, une autre opportunité. Toute son œuvre était construite sur cette espèce de démultiplication de soi, à même une réécriture en partie romanesque, en partie fantasmatique de sa propre vie. Eh bien, avec le sida, il y a une confrontation à l'inconnu.
Quand vous dites un sujet à sa hauteur, Bruno Blankmann, c'est à la hauteur du tragique qu'il souhaite depuis toujours finalement faire surgir dans sa propre vie, parce que c'est aussi le refus de la médiocrité que de vouloir que le tragique tout d'un coup apparaisse. Là, en l'occurrence, la médiocrité, c'était ce qu'il redoutait le plus. Donc finalement, quand il dit que pour lui, avoir le sida, je le cite, c'est à la fois terrible et en même temps quel pied, c'est ça peut-être Bruno Blankmann.
Oui, sauf qu'il ne, il ne l'écrit pas toujours. En revanche, il va toujours écrire, y compris quelques semaines avant sa mort, sur son lit d'hôpital. Il tient son journal, il continue à tenir son journal, et c'est une écriture qui se décompose dans sa forme et dans sa longueur, mais qui conserve toute sa lucidité analytique et toute, je dirais, toute son espièglerie, sauf qu'il s'agit d'une espièglerie qui devient tragique, forcément. Puisque c'est avec les dernières mesures du sablier, c'est avec sa propre fin qu'il joue, il jongle, hein, dans ce texte extraordinaire, ce journal d'hospitalisation qui s'intitule Cytomégalovirus.
Et alors précisément, dans la manière de décrire ce tragique, on va quand même vraiment au bout du tragique avec Hervé Guibert, il y a cette écriture qui semble un petit peu glacé, un petit peu vitrifié, et qui met un petit peu à distance tout de même le lecteur, tout en semblant révéler absolument tout. Est-ce que c'est un effet stylistique, littéraire, ou alors est-ce que pour vous, Bruno Blankmann, c'est le reflet de sa personnalité à lui? On sait qu'Hervé Guibert pouvait aussi être quelqu'un qui mettait à distance de lui-même les gens qu'il rencontrait. Comment est-ce que vous voyez ça?
Alors, il y a plusieurs questions finalement. Celle que je vais aborder, la première qui me semble vraiment déterminante, c'est la question du style. Guibert était un remarquable styliste, y compris lorsque ces phrases semblent être empruntées à une réalité des plus prosaïques. Il y a un montage de la phrase, quand il construit une phrase de 3-4 pages qui n'en finit plus, une espèce de phrase à la Proust, mais un Proust qui serait un peu déjanté, voyez. Tout cela est extrêmement tenu sur un plan syntaxique, grammatical, c'est-à-dire qu'il maîtrise à fond son instrument d'écrivain. Et en même temps, tout cela est mis au service de la restitution de certains états seconds qui sont ceux de la maladie. Comment traduire à même la langue cette expérience d'un corps qui se perd? Cette expérience donc d'un sujet, d'un individu qui perd le contrôle de lui-même et qui ne peut récupérer ce contrôle que 2 ou 3 heures par jour lorsqu'il écrit et lorsqu'il a une lucidité suffisante pour composer des phrases, pour composer un récit qui va mimer, qui va trouver des équivalents verbaux, narratifs, esthétiques, pour décrire ce corps en pleine déliquescence.
Donc cette écriture très maîtrisée, très tenue, très horlogée, elle vient, selon vous, du fait que précisément Hervé Guibert est malade. Est-ce que ça signifie que avant la découverte du sida, on est dans un autre type d'écriture?
Non, ça ne vient pas du sida. La représentation nécessaire du sida et de son sida pour Guibert s'inclut dans un projet littéraire qui est très ancien et qui est une espèce de récit de soi qu'il entame dès son plus jeune âge. Récit de soi qui n'est pas que centré sur soi, mais qui part des expériences les plus élémentaires de la vie d'un garçon, d'un jeune homme, d'un homme, et puis d'un homme qui devient malade. Et il y a véritablement cette focalisation sur l'individu, à partir de laquelle Guibert interroge l'inconnu humain.
Et alors sur la deuxième partie de ma question précédente, qui était cette idée de la mise à distance du lecteur par rapport à l'auteur, oui. Qui pourrait être le reflet de la personnalité même d'Hervé Guibert, qu'en pensez-vous, Bruno Blanc?
Alors je pense que Guibert c'est un c'est un écrivain qui est un grand pervers. Il n'arrête pas de jouer avec le lecteur. Il n'arrête pas de jouer avec nous. C'est-à-dire que tantôt il nous place dans une proximité telle par rapport à la réalité de la maladie, ou par rapport, dans certains autres textes, sa sexualité, ou par rapport à ses brouilles, ses disputes avec ses amis, comme si l'on était obligé de prendre parti, vous voyez. Tantôt, il y a cet effet de proximité radicale avec l'expérience relatée, qui crée de la gêne, hein, et c'est cette gêne qu'il recherche aussi. Hein, le lecteur, il ne s'agit pas de lui plaire, il s'agit de le choquer. Aussi. Et puis tantôt, il y a ce que vous appelez fort justement cette mise à distance, hein, ou cette vitrification. Alors je ne sais pas si j'emploierais ce terme-là, mais il y a...
C'est beau aussi quelque chose de vitrifié, c'est bien brillant.
Oui, c'est beau, mais en même temps, c'est signé, enfin, il y a la marque. Vous voyez, et donc on nous fait comprendre que c'est un travail esthétique, mmh. C'est une sorte de presque de papier glacé, et tout cela vise à nous déstabiliser.
Le plus jeune emmène le plus vieux dans une chambre. C'est la nuit. Aussitôt le plus jeune allume la lampe, une lumière très crue, comme pour s'en protéger. Aussitôt le plus jeune dit au plus vieux. Tu partiras à 4 heures du matin. Il se dénude. Il s'allonge sur le lit. Et le plus jeune, sous la lumière très crue, voit alors sous la peau du plus vieux tout un réseau de vénules rosacées qui le dégoûte un peu. Il remarque son ventre, qui est déjà un peu gras, et son érection, d'une même rougeoyance entrevue sous la peau du visage. Lui n'a pas d'érection, et cette érection aussi le dégoûte un peu. Mais c'est un très petit dégoût, un dégoût presque indifférent. Le plus jeune alors, qui se laissait caresser, tout à coup s'étend sur le plus vieux. Il répète « Tu partiras à 4 heures du matin ». Le plus jeune a des gestes d'une grande tendresse, d'une grande affection. Il penche son regard bleu, la mèche très tendre de ses cheveux, vers le plus vieux, qui réplique, qui croit bon de répliquer « Non, je ne partirai pas, je resterai ». Le plus vieux proteste. Ils roulent ensemble, d'un côté et d'autre, et tout à coup le plus vieux prend le sexe du plus jeune dans sa bouche. Le plus jeune alors s'étire, sourit d'un sourire très lâche sous la lumière toujours crue, et a les gémissements d'un très jeune animal. Le plus vieux veut éteindre cette lumière qui donne à chaque parcelle de peau une apparence de chair, de viande, il le voit bien sur lui. Le plus vieux se repaît de la douceur des épaules du petit. Cette chair-là n'a aucune apparence de viande, mais d'un fruit ou d'un tissu très souple, d'une moire. Le plus jeune refuse qu'on éteigne la lampe. Il a peur de se retrouver dans l'obscurité avec cet homme. Il veut le voir distinctement et que rien ne puisse être dissimulé. Même dans la volupté que cette bouche lui a donnée, il n'a pas fermé une seule fois les paupières. Il reste ainsi 3 heures côte à côte, ou l'un sur l'autre, à se rouler ensemble sur le drap, à s'embrasser, et le plus vieux voudrait que cet instant n'ait jamais de fin. Mais brusquement, précisément, le plus jeune veut que cet instant ait une fin très proche. Il se relève et son visage attrape quelque chose de dur. La lumière n'a toujours pas été éteinte et l'aube de l'été déjà l'affaiblit. Il dit « Je vais dormir par terre, reste sur le lit ».
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes sur France Culture. Et à l'instant, c'était un extrait des aventures singulières lues par Hervé Guibert lui-même. Qu'est-ce que vous en retenez, Bruno Blanckmann ?
Que c'est une très belle page littéraire avant tout, hein, que c'est une poésie de la pornographie.
C'est pornographique, Hervé Guibert, là en l'occurrence à peine, non ?
Quand même, on n'est pas simplement dans l'érotisme.
Enfin, il y a un malaise, mais est-ce que c'est un malaise qui naît de la pornographie ou est-ce que c'est un malaise qui naît justement de l'espèce de relation étrange qu'il y a entre les deux personnages ?
Disons une pornographie sans malaise. Une écriture de la chair, c'est l'étymologie hein, du mot pornographie. Une écriture de la chair, une écriture de la sexualité, une écriture aussi de la séparation dans l'acte de la sexualité, une écriture de la beauté des gestes et surtout de la beauté des mots. Les mots peuvent être crus, comme certains d'entre eux, et encore, il y en a peu dans cette page, mais la rhétorique pornographique, elle, rend, comment dire, non pas sublime, mais tout à fait magnifique, cette page. Mais c'est une magnificence qui ne joue pas sur des pulsions ou des désirs, on va dire, conventionnels. C'est faire sa part du malaise en reconstituant une scène, donc une scène pornographique.
Il y a aussi évidemment la question esthétique de la beauté qui côtoie visiblement un corps qui l'est plus ou qui l'est moins, et ça c'est une fascination aussi pour Hervé Guibert.
Oui, il y a une fascination chez Guibert pour les corps, alors non pas les corps laids, mais les corps qui mènent leur propre vie et leur propre devenir à côté des canons, à côté des standards, les corps de la vieillesse. Ces deux grand-tantes, par exemple, qu'il portraiture, les corps un petit peu difformes de personnages qu'il rencontre comme cela, et puis son propre corps comme objet d'écriture à partir du moment où ce corps le trahit. Où ce corps devient malade.
Alors, est-ce que c'est choquant de dire que on lit Hervé Guibert, parce que vous avez interrogé pour la revue 2050, je crois, Marie Dariussec à ce sujet. Elle avait raconté qu'elle s'était brouillée avec son grand-père au moment où elle lui avait expliqué à ce grand-père qu'elle travaillait sur Hervé Guibert. Lui, il était allé acheter un certain nombre de livres et puis il s'était apparemment fâché que sa petite fille s'intéresse à ce genre de littérature. Il y a encore un aspect sulfureux à Hervé Guibert, ou est-ce que celui-là s'est un petit peu dissous au fur et à mesure des années, avec la société changeant aussi? Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Blankmann?
Oui, je pense qu'il y a effectivement une sorte de d'édulcoration que les années ont apportée à cette teneur un petit peu violente dans la représentation du sexe ou de la maladie, qui a pu choquer un certain nombre de lecteurs. Je pense aussi que depuis l'époque de Guibert, notre société s'est émancipée d'un certain nombre de tabous et que des sujets choquants le sont peut-être moins, d'autres par contre le sont un peu plus.
Qu'est-ce qui est plus choquant aujourd'hui chez Guibert?
Aujourd'hui, je dirais, c'est déjà ce dont donne un aperçu le texte que vous avez lu, cette histoire du plus vieux et du plus jeune. Et cette histoire dans Fou de Vincent, par exemple, de l'âge de Vincent, qui n'est jamais donné.
Qui a 15 ans, vous
dites. Voilà, peut-être à peine. Et donc, cette question du rapport au corps de l'enfant adolescent, elle était non pas anodine à l'époque de Guibert, mais elle ne cristallisait pas les réactions et les réprobations à une époque qui était encore à dominante homophobe, donc qui mettait toute forme de sexualité, ou d'homosexualité plutôt, dans le même sac. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. Et donc, ces pages-là sont peut-être plus sulfureuses qu'à l'époque de leur composition.
Alors, dans votre essai « Les récits indécidables », Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, vous avez tenté de caractériser, Bruno Blankmann, un petit peu, justement, le genre de littérature auquel s'adonnait Hervé Guibert. Et la première question qu'on se pose, c'est « Est-on dans l'autobiographie ?» Quel est le rapport d'Hervé Guibert avec la question de la réalité? Raconte-t-il finalement sa vie, Bruno Blankmann?
Oui, alors qu'il raconte sa vie, oui, à partir du moment où on entend l'idée de vie dans toute sa coextension, dans sa coextension à l'imaginaire aussi, au fantasme, c'est-à-dire à ce qui ne se produit pas sinon mentalement. Et Guibert, là où il part effectivement de l'autobiographie, mais pour renouveler l'autobiographie, comme un certain nombre d'écrivains ou d'écrivaines de sa génération, hein, des années 80, c'est que il va mettre en quelque sorte sur un même plan de représentation et de connaissance l'expérience vécue, ce qui est le propre de l'autobiographie, et l'expérience fantasmatique ou l'expérience rêvée, hein, ce qui va être le propre d'un genre qui se détache de l'autobiographie et qui le renouvelle, qui est l'autofiction.
Alors avant d'aller plus loin, Bruno Blankmann, je vous propose d'écouter un extrait de son livre très autobiographique, celui-là, « Mes parents ».
L'angoisse de ma mère, rapportée par Suzanne, de ne plus voir dans le journal, pendant une période donnée, ici le temps de mes vacances, d'articles de moi, comme si ces articles, et l'impression de mon nom dans une page tirée à 500 000 exemplaires, était la seule preuve de mon existence, comme si la lecture de ces articles était la seule relation qu'il pouvait avoir avec moi, une fois la parole coupée. Et cette angoisse de ma mère se répercute sur ma propre angoisse. Cette disparition de mon nom dans le journal finit par m'apparaître comme une défaillance. J'imagine que s'il n'avait pas cette impression de mon nom comme une assise d'autorité, d'importance, de pouvoir, déjà les inquiètes et les alarmes parfois le troncage de mon nom, par des initiales, il supporterait beaucoup moins bien l'homosexualité. Toute seule, elle ferait de moi, à leurs yeux, un être asocial, menacé, perdu. La mort des parents, dit A, le jour où l'on connaît la délivrance de n'avoir plus rien à prouver.
La compagnie des auteurs sur France Culture. On est dans quoi là, Bruno Blankmann? Autofiction, journal littéraire, autobiographie, récit?
Oui, on est effectivement, quand on prélève des extraits, si vous voulez, on est dans un peu tout ça. Il y a toujours dans les autobiographies, hein, quelles qu'elles soient, des passages de réflexion, des interrogations qui traversent le texte. Ici, on est dans un autre registre qui est aussi celui du procès familial. Mais de cette manière, Guibert, en quelque sorte, renouvelle une sorte de pacte autobiographique moderne qui naît avec Gide. Gide a été le premier, entre autres avec Si le grain ne meurt, à proposer des autobiographies, une autobiographie de l'inconfort, une autobiographie qui n'est pas là pour conforter un certain type, mode et structure de vie, avec une famille qui serait non pas parfaite du point de vue des individus, mais parfaite du point de vue de la structure. C'est quelqu'un qui chamboule, déstabilise un peu tout cela. Et
aussi un pamphlet, alors.
C'est aussi un pamphlet. Et de même, après Gide, Genet dans le journal du voleur, certains textes de Duras, après, il y a comme ça toute une série de textes qui préparent en amont ce qui va se multiplier à partir des années 1980, et dont Guibert est un des représentants, me semble-t-il, le plus talentueux, qui est l'émergence de l'autofiction.
Donc Angot est une enfant de Hervé Guibert, par exemple, pour vous?
Alors, enfant, je ne dirais pas enfant, mais petite cousine, oui. Et elle-même, je crois, l'a déclaré, naguère, où elle a inscrit son œuvre dans une double parenté qui était celle de Guibert et de Duras. Donc il me semble qu'on est là face à l'émergence d'une pratique, mais il faut rendre à César quand même ce qui lui appartient. Celui qui a inventé le terme d'autofiction, c'est Serge Dubrovski, hein, en 1977 dans Le Fils.
On est peut-être aussi, et là moins dans Mes parents que dans la trilogie À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, sitôt Mégalovirus et L'homme au chapeau rouge, on est aussi dans l'enquête, presque presque journalistique. Et c'est là où, tout à l'heure, on évoquait un petit peu le document. Ça nous rappelle que Hervé Guibert était aussi un journaliste. Est-ce que vous pensez que ces deux modes d'écriture, à un moment donné, se contaminent, Bruno Blankmann ?
Se contaminent, je ne sais pas, elles interfèrent. J'imagine qu'il écrivait sur le même bureau. Ou sur le même même absence de bureau, sur les mêmes genoux en tout cas. Je pense que ça suffit, oui. Il y a un fluide commun, hein, qui participe de l'organique, qui participe de la pensée.
Mais dans la clarté de son style, il n'y a pas du journalisme aussi ou...
Oui, dans la manière de donner tout son prix et tout son poids au principe de réalité le plus précis, le plus minutieux et le plus infime. Tout à fait. Il y a du journalisme, mais un journalisme qui aurait finalement le temps d'aller jusqu'au bout de sa propre enquête ou de sa propre couverture, ce qui parfois n'est pas le cas.
Chez les vrais journalistes, enfin ceux qui ne sont que journalistes, Bruno Blankmann, nous allons poursuivre avec vous cette conversation pour caractériser un petit peu plus encore l'œuvre d'Hervé Guibert, mais tout de suite faisons une pause avec En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et en compagnie aujourd'hui du magazine L'Express, avec vous Jérôme Dupuis, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un écrivain qui est bien différent d'Hervé Guibert, puisqu'il s'agit de Jean d'Ormesson.
Oui, là on va passer du tragique à l'hédonisme, un peu brutalement peut-être.
L'hédonisme tragique.
Voilà. Mais à L'Express, nous avons surtout retenu la publication d'une biographie qui vient de paraître de Jean d'Ormesson. Elle est écrite par Sophie Desdéserts, qui est journaliste à Vanity Fair. Et elle n'a pas voulu faire une biographie à l'américaine, elle a volontairement fait des impasses. Elle a plutôt fait un portrait un peu intimiste de Jean d'Ormesson, qu'elle a beaucoup rencontré. Donc c'est plutôt le portrait, les souvenirs d'un homme au crépuscule de sa vie.
Alors est-ce que cette biographie réserve un certain nombre de surprises, Jérôme ?
Oui, parce qu'en fait... Jean d'Ormesson n'a parlé que de lui dans ses livres, mais il a passé son temps à poser des masques en réalité sur sa vie. Et du coup, Sophie Desdéserts est un petit peu allée voir derrière. Et c'est vrai qu'il incarnait cette espèce d'écrivain un peu aristocratique, mais on ne connaissait pas la réalité de cette vie. Et la réalité de cette vie, c'est une vie qui s'est déroulée beaucoup en vacances, en Corse, dans une belle propriété en Suisse, dans l'hôtel particulier de Neuilly, où son majordome lui servait tous ses repas. C'est une vie qu'il a partagée avec des gens de la haute jet-set internationale, si on pouvait dire. C'est-à-dire, on avait le sentiment qu'il passait sa vie avec les vieux académiciens du Figaro. Mais en réalité, il était avec Gianni Anelli, le patron de la Fiat, il était avec Jackie Kennedy, il était avec Pamela Riemann. Et Sophie Desdéserts explique que l'origine de cette vie d'hédonisme, c'est en réalité le mariage de Jean d'Ormesson, puisqu'il a épousé Françoise Béguin, qui était l'héritière des sucres béguincés, et qui était à la tête d'une immense fortune. On oublie même parfois que ce couple a été entendu par la brigade financière il y a quelques années pour avoir dissimulé 16 millions d'euros en Suisse. Mais comme le dit Sophie Desdéserts, on pardonne tout à Jean d'Ormesson.
Alors on découvre aussi dans cette biographie que le mode de vie de Jean d'Ormesson n'était peut-être pas tout à fait conforme à la morale prônée par ailleurs par le Figaro magazine.
Oui, absolument. Alors c'est une sorte de secret de polichinelle dans les milieux de l'édition et de l'académie à Paris, mais sans doute le grand public... Et en particulier, en effet, ses lecteurs et lectrices du Figaro vont être un peu surpris. Jean d'Ormesson est tombé amoureux d'une femme il y a une quarantaine d'années lors d'un déjeuner chez Gallimard. Elle s'appelle Malcy Ozana et peut-être son livre posthume « Un Ozana sans fin » est-il un petit clin d'œil à son nom. Et ils ont plus ou moins vécu effectivement une longue aventure pendant 40 ans. Aventure tellement longue que évidemment la famille de Jean d'Ormesson était au courant et que et là encore
la femme de Jean d'Ormesson
également puisqu'elle est devenue l'amie de cette Malcy Ozana que les deux femmes partaient ensemble en vacances. Donc c'est vrai que c'est une situation un peu particulière dans un schéma un peu bourgeois et Sophie Desdéserts montre bien que finalement par sa personnalité, son charme, Jean d'Ormesson a réussi à faire passer cela aussi.
Est-ce qu'on a aussi des révélations ou au moins une meilleure compréhension sur Jean d'Ormesson écrivain, Jérôme Dupuis ?
On a la confirmation de ce que les spécialistes savaient, c'est-à-dire que Jean d'Ormesson a eu un succès extrêmement tardif. On a l'impression qu'il a toujours été cette espèce de grand-père des Français avec ses beaux yeux bleus. Mais en réalité, tous ses amis écrivains le considéraient comme un loser jusqu'à ses 50 ans. Gianni Anelli se moquait souvent de lui sur la plage quand il voyait écrire Jean d'Ormesson. Il lui disait « Alors Jean, t'es en train de révolutionner la littérature ?» Et en fait, le succès n'est arrivé quasiment qu'à 50 ans avec l'entrée à l'Académie, le Figaro, la Chambre d'écho qui a été apostrophe pour Jean d'Ormesson. C'est à ce moment-là, avec la gloire de l'Empire, qu'il a vraiment connu le succès. Sophie Desdésert dit franchement que certains de ses livres sont très moyens, notamment les derniers. Il a passé son temps à ressasser les mêmes histoires, à prendre beaucoup de liberté en réalité avec la vérité. Et elle raconte que dans les derniers mois de sa vie, Jean d'Ormesson était, comme tout écrivain, très soucieux de la postérité qu'il allait laisser. Il se rassurait évidemment avec son entrée dans la Pléiade, même si elle a été assez controversée en son temps. Et effectivement, il n'est pas traduit à l'étranger. On ne connaît pas beaucoup des jeunes écrivains français qui se revendiquent beaucoup de lui. Et donc, on peut se demander si, une fois le personnage disparu, une fois les prestations à la télévision passées, est-ce qu'il restera dans notre littérature ?
Eh bien, cela, Jérôme, l'avenir le dira. Merci. On retrouve votre signature, et en particulier sur Jean d'Ormesson, dans les colonnes du magazine L'Express. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez au deuxième jour de notre série consacrée à l'écrivain Hervé Guibert. Nous sommes en compagnie de Bruno Blankmann.
Bon, moi j'ai résisté, donc j'ai résisté au sida, parce que j'ai résisté à l'aveu du sida, et j'ai résisté à l'aveu à moi-même, puis à l'aveu aux autres, et à l'aveu par l'écriture. Et quand j'ai décidé de m'y mettre, de me jeter à l'eau, je suis allé à Rome, c'était fin décembre 88, je crois, pour écrire à l'ami qui m'a pas sauvé la vie. C'était un hasard, un télescopage. Tac, j'ai lu Perturbation de Thomas Bernard, qui m'a passionné comme livre, enfin, mais il m'a tellement fasciné que j'avais commencé à écrire ce livre et je me suis rendu compte que j'étais pris d'assaut par le virus du sida, mais en plus j'étais vraiment phagocyté comme ça, colonisé par une fascination d'écriture. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie d'écrire un livre qui me tient tellement à cœur, que j'ai retenu, que je me suis empêché d'écrire pendant tellement de temps, et maintenant il y a cet Autrichien à la noix de coco qui débarque et qui me fait écrire dans son sillage, dans son admiration. Qu'est-ce que je fais? C'est pas possible. Il faut que je m'en débarrasse. Ou il faut que... Et finalement, je me suis dit non, parce qu'il y a toujours eu, derrière tous mes livres, il y a eu une espèce d'ombre comme ça projetée d'un écrivain. Il y a eu Eugène Savitskaya, il y a eu Peter Handke, il y a eu Mathieu Lindon, il y a eu des écrivains comme ça qui ont été un peu en filigrane du livre, comme ça, qui ont été des moteurs comme ça secrets du livre. Alors je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas le dissimuler.
Hervé Guibert dans l'émission Ex Libris de Patrick Poivre d'Arvor, une émission de 1991. Bruno Blankmann, je vous ai vu prendre des notes à l'écoute de cet extrait. À quoi pensiez-vous ?
Alors, je pensais en entendant Hervé Guibert que c'était quelqu'un, et je trouve ça très très fort pour un homme de sa génération, qui n'avait jamais eu à faire son coming out en termes de sexualité, puisque sa sexualité au masculin a tout de suite occupé les ouvrages qu'il a fait paraître très jeune. Mais le coming out est venu par rapport à la maladie. Et avec, on peut l'imaginer, un combat mené en son fort intérieur pour avouer aux autres, s'avouer à soi-même, que l'on entrait finalement dans une nouvelle phase de sa vie et surtout dans un nouvel aspect de son identité personnelle. Et finalement, à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, oui, c'est l'histoire d'un coming out, mais qui prend la maladie pour objet.
Et un coming out qui naît dans cette forme-là, en tous les cas, de la lecture d'un livre de Thomas Bernhardt, oui. Sur les influences, justement, et peut-être d'abord sur l'influence de Thomas Bernhardt, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, cette influence, je dirais qu'elle est parfois signée par Guibert, elle est parfois surjouée. Dès l'ouverture du récit, deuxième ou troisième chapitre, je crois, il y a un recours à la véhémence, à l'argot, à la violence, à l'agression, qui tranche par rapport à l'écriture de Guibert, à ce que l'on connaît de cette écriture, et qui est véritablement du Thomas Bernhardt. Hein, quand il dit qu'il va crever, mais que avant de crever, il voudrait chier à la gueule de ses parents et de la terre entière, ça n'est pas du tout le registre auquel Guibert nous a habitués dans ses précédents ouvrages. Là, c'est la voix de Thomas Bernhardt, c'est cette véhémence, cette rhétorique de la vitupération qui est celle de Thomas Bernhardt par rapport à sa propre nation, qui en quelque sorte est recyclée par Guibert dans un autre corps, dans un autre contexte et par rapport à l'évocation de sa maladie et à l'aveu de sa maladie.
Il y a de la cruauté aussi chez Hervé Guibert, vous diriez ça ?
Ah oui, il y a de la cruauté, c'est un grand écrivain de la cruauté. Dans ses romans, on a parlé essentiellement de ses récits de soi, mais dans ses romans comme Des aveugles, par exemple, il y a toute une réflexion sur le principe de cruauté dans Vous m'avez fait former des fantômes, qui est un autre de ses romans absolument épouvantable, où il est question d'un élevage d'enfants qui sont voués à terminer comme des taurillons sous l'épée du matador, il y a une espèce d'écriture de la cruauté, alors qui est, me semble-t-il, l'héritage de toute une tradition de romanciers noirs, ce qu'on pourrait appeler des romanciers noirs, c'est-à-dire Sade. Hein, le principe de la délicatesse et de la cruauté chez Sade a beaucoup marqué Guibert dans certains de ses textes, et que l'on retrouve un petit peu avant que Guibert commence à écrire, mais c'était sans doute ses lectures d'adolescent, certaines de ses lectures, sous la plume d'un Pierre Guyotat, ouais. Sous la plume d'un Bernard Noël, Château de Seine par exemple, et surtout sous la plume d'un Tony Duvert.
Mais alors vous soulignez quand même que quand il y a obscénité, il y a aussi en même temps préciosité, oui. Et vous citez un passage de Fou de Vincent, je le lis à mon tour, avec Vincent... On a passé une bonne partie de la nuit à me mettre, ça m'a rappelé ces nuits blanches juvéniles à deux, les toutes premières où la sensualité l'emporte sur l'épuisement, où la recherche vaine du plaisir devient plus exaltante que le plaisir attendu et où les corps se mettent à dégager une étrange odeur au-delà de la sexualité.
Oui.
Et là vous dites que l'obscénité, d'une certaine manière, par la préciosité, elle se désamorce d'elle-même.
Oui, elle se désamorce, elle laisse des traces, bien sûr, mais elle est en quelque sorte, non pas sublimée, mais elle est co-signée par la préciosité. Hein. Un autre moment, il parle de sueur d'absolu. Il y a comme ça cette façon, de cette volonté de dégager de l'expérience la plus prosaïque, la plus usuelle, on peut le supposer, ce qu'elle peut avoir d'absolu. Hein. En quoi la sexualité, telle qu'elle est vécue parfois, peut être une sorte de transcendance des corps et des esprits également.
Donc on est toujours dans l'ambivalence avec Hervé Guibert. Et ça se retrouve d'ailleurs dans nombre des titres qu'il a choisis pour ses livres. Vous en avez parlé dans la revue Roman 2050, c'était le numéro 59 qui était consacré à Hervé Guibert en juin 2015. On va prendre un certain nombre de ces titres, puis vous allez nous dire ce qu'ils signifient pour vous et où se cache l'ambivalence. Alors par exemple, il y a Le Mausolée des Amants, journal 1976-1991, qui a été publié à titre posthume. Que pouvez-vous nous en dire, Bruno Blankmann ?
Sur Le Mausolée des Amants, alors c'est l'œuvre de l'œuvre. C'est l'origine de l'œuvre et en même temps aussi peut-être son accomplissement. Tous les grands textes que Guibert écrit, tous les grands récits de soi, toutes les grandes autofictions qu'il écrit sont extraites de certains paragraphes du Mausolée des Amants. Et le titre lui-même est la meilleure signature du projet littéraire de Guibert. Le Mausolée des Amants, ça rappelle bien sûr le monument, mais aussi le tombeau. C'est une architecture, cela signifie que l'écriture de soi, elle ne se contente pas de décrire, mais elle édifie aussi un certain nombre d'expériences vécues, mais qui deviennent des expériences véritablement esthétiques et ouvertes au sens, un sens qui excède les situations premières, à partir du moment où il y a ce travail qui est un travail qui est le travail du diariste, c'est-à-dire de l'homme qui écrit son journal, mais en même temps de l'homme qui écrit son journal, c'est ce qui le différencie peut-être d'autres journaux intimes, en ayant déjà à l'esprit l'idée que la fin ne sera pas exclusivement le journal lui-même, mais que ce qui est écrit dans le journal constituera en une espèce de matière première.
Oui, parce qu'il récupère des bouts de son journal.
Il prélève.
Il se pille lui-même, quoi.
Voilà.
D'une certaine manière.
Il se pille et il se développe. C'est une certaine manière de revivre en aval du temps vécu un certain nombre d'expériences fortes qui, avec l'âge, si on peut parler d'âge dans le cas d'Hervé Guibert qui est mort très jeune, mais quand même, avec la distance dans le temps, prennent une toute autre résonance et appellent à être développées. C'est, me semble-t-il, ce qu'il y a de plus important dans le dispositif entre le journal et les récits qui en sont tirés, c'est que les récits vont développer ce qui a été noté comme une expérience vécue, mais une expérience éphémère, une expérience brève. La littérature, finalement, elle est là pour donner un corps, pour donner une représentation à des expériences qui n'ont été qu'effleurées, qui n'ont été qu'amorcées
dans
la réalité.
Donc on vit finalement davantage dans la littérature que dans la réalité,
voilà.
C'est peut-être ça aussi qu'on
pourrait dire. Voilà, il y a une expansion de la vie vécue par l'intermédiaire de la vie écrite. Encore faut-il que cette vie écrite trouve des supports dans la vie réelle, et le journal, il apporte toute la matière de cela.
L'image fantôme, vous dites aussi que c'est un titre qui est ambivalent. Qu'est-ce que vous voyez dans ce titre-là, Bruno Blankmann ?
Alors oui, c'est à la fois, alors c'est toute l'ambivalence du rapport à la photographie, qui est celui d'Hervé Guibert, une pratique dont il fait un métier, une pratique qu'il n'abandonne jamais, mais en même temps, une pratique qui, dans ses activités d'artiste écrivain, est mineure par rapport à la littérature. Le récit est plus puissant que la photographie parce qu'il permet de développer celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, il y a une dimension orphique du récit littéraire. C'est-à-dire que le récit littéraire va en profondeur, creuse en profondeur l'expérience vécue. Là où la photographie en saisit simplement des instantanés.
Et les deux sont complémentaires.
Mmh.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on ne pense pas souvent à la politique quand on parle d'Hervé Guibert. C'est pourtant une question que vous avez souhaité poser à Marie Darieussecq. Y a-t-il du politique chez Guibert? J'ai envie de la poser à mon tour. Qu'en pensez-vous de votre point de vue? Y a-t-il du politique chez Guibert?
Alors, oui, il y a du politique. Il était tout sauf un homme de droite. On peut déjà répondre, voilà, de manière laconique de la sorte. Mais le politique, beaucoup plus que la politique, hein, chez Guibert, il n'y a pas d'engagement au sens partisan du terme. Simplement, construire toute une œuvre autour de l'homosexualité à partir de 1977, à une époque où l'homosexualité n'a pas le statut légal qui est le sien aujourd'hui, où il y a toujours un certain nombre d'interdits, une différenciation, par exemple, à cette époque-là, entre l'âge de la minorité et de la majorité hétérosexuelle, 15 ans, et homosexuelle, 18 ans. Une époque aussi où les mentalités sont encore assez en retrait par rapport à ce qu'on n'appelle pas encore la préférence sexuelle. Il y a du politique. Pourquoi ? Parce que Guibert construit son œuvre autour de son désir et de celui des autres avec lequel il l'assouvit, mais sans en même temps brandir une quelconque bannière.
C'est ça, parce qu'en réalité, il est politique dans le sens où il témoigne de son expérience personnelle, sans faux semblant, oui. Mais il n'y a pas de collectif, il n'y a pas tellement d'idées du collectif.
Voilà, mais c'est plus qu'un témoignage. En construisant son œuvre sur ses amours, masculines, sans jamais tenir un discours normatif sur ce choix, sur cette préférence, il normalise complètement l'homosexualité. Hein. Et c'est en quelque sorte non seulement cette normalisation, mais cette familiarisation avec l'homosexualité que ces récits rendent possible, puisque ces amours sont quand même centrales dans ces récits et elles se conjuguent toutes au masculin. Mais sans qu'il y ait besoin, si vous voulez, de tenir un discours d'accompagnement, un discours de prudence. Non, c'est montré comme une évidence de l'individu qui écrit, comme si c'était acté à une époque où ça ne l'est pas.
Il nous reste très peu de temps, 2 minutes à peu près. J'aurais voulu qu'on consacre ce temps-là à parler de Hervé Guibert dans l'histoire littéraire. On pense à Annie Ernaux, que vous avez beaucoup lu aussi, je crois, Bruno Blankmann. Est-ce que vous avez envie de rapprocher, par exemple, ces deux écrivains, ou y a-t-il d'autres écrivains qui vous semblent plus faciles à rimer à Hervé Guibert ?
Oui, Annie Ernaux, y a vraiment un certain nombre d'éléments communs, de points communs dans leur projet. Hein, c'est un projet qui, sans concession, représente le sujet, celui qui écrit, hein, dans un certain nombre de ses gestes élémentaires, parmi lesquels la sexualité et l'affect et les passions multiples, avec, dans les deux cas, l'invention d'un style. Alors, c'est peut-être là aussi ce qui les différencie. Guibert travaille sur l'autofiction, c'est-à-dire qu'il donne toute sa part à l'expression directe du fantasme et de l'histoire inventée comme étant une certaine manière de parler de soi, donc comme entrant de plein pied dans l'autobiographie. C'est exactement tout ce que refuse Annie Ernaux, où il y a au contraire un travail sur le neutre, hein, au sens peut-être que Barthes donnait à cette catégorie, hein, un travail sur le minimalisme formel qui est aux antipodes des expansions littéraires de Guibert.
Est-ce que vous pensez que Guibert devrait entrer dans la bibliothèque de la Pléiade ?
À partir du moment où Jean d'Ormesson y est, il y a effectivement bon nombre de prétendants, dont Guibert, oui. C'est un écrivain, me semble-t-il, qui est un des écrivains d'importance de la seconde moitié du XXe siècle, important par son œuvre et important parce que cette œuvre a télescopé l'histoire de manière extrême.
Merci Bruno Blankmann. Je rappelle donc votre ouvrage paru aux presses du Septentrion sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission. Il s'appelle « Les récits indécidables, Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard » et il a paru en 2008 aux éditions donc du Septentrion. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Stéphanie Vélin, Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne Vanessa Prévost, Didier Pinot et Jean Frédérics. Demain, troisième épisode de notre série Hervé Guibert, nous serons avec Arnaud Genon qui nous parlera en particulier de la photographie dans son œuvre. Mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie et c'est comme chaque jour avec Jacques Bonafé.
Bonjour Mathieu, bonjour la compagnie. Pour une fois, on commencerait par... etc. C'est pour donner la parole au poète en colère Léon Gontran Damas, etc. dans Pigments névralgie. En préambule du poème, une citation, une coupure des journaux, en 40. Devant la menace allemande, les anciens combattants sénégalais adressent un câblogramme d'indéfectible attachement. Et on sent bien que ça l'agace, Léon Gontran. Aux anciens combattants sénégalais... aux futurs combattants sénégalais, à tout ce que le Sénégal peut accoucher de combattants sénégalais, futurs anciens, de quoi je me mêle, futurs anciens, de mercenaires, futurs anciens, de pensionnés, de galonnés, de décorés, de décavés, de grands blessés, de mutilés, de calcinés, de gangrénés, de gueules cassées, de bras coupés, d'intoxiqués, et patati et patata, etc. Futurs anciens, moi, je leur dis merde. Et d'autres choses encore. Moi, je leur demande de remiser les coupes-coupes, les accès de sadisme, le sentiment, la sensation de saleté, de malpropreté à faire. Moi, je leur demande de taire le besoin qu'ils ressentent de piller, de voler, de violer, de souiller à nouveau les bords antiques du Rhin. Moi, je leur demande de commencer par envahir le Sénégal. Moi, je leur demande de foutre aux boches la paix. Trêve, dit le poème Trêve. Et on sait que Léon Gontran Damas passe par le jazz. Trêve de blues, de martèlement de piano, de trompette bouchée, de folie claquant les pieds à la satisfaction du rythme. Trêve de séance à tant le swing autour de ring qu'énerve des cris de fauve. Trêve de lâchage, de léchage, de lèche et d'une attitude d'hyper-assimilé. Trêve d'un instant d'une vie de bon enfant et de désir et de besoin et d'égoïsme particulier. À la page 43. Rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image des catins blêmes, marchands d'amour qui s'en vont, viennent sur le boulevard de mon ennui. Rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image sempiternelle, l'image hallucinante des fantômes empilés fessus, dont le vent porte au nez la misère miséricorde. Donnez-moi l'illusion que je n'aurai plus à contenter le besoin étal de miséricorde ronflant sous l'inconscient dédain du monde. Rendez-les-moi mes poupées noires, que je joue avec elles, les jeux naïfs de mon instinct, restés à l'ombre de ces lois, recouvrez mon courage, mon audace, redevenu moi-même, nouveau moi-même, de ce que hier j'étais, hier, sans complexité, hier, quand est venue l'heure du déracinement. Le sauront-ils jamais, cette rancune de mon cœur, à l'œil de ma méfiance ou ouvert trop tard, ils ont cambriolé l'espace qui était le mien, la coutume, les jours, la vie, la chanson, le rythme, l'effort, le sentier, l'eau, la case, la terre en fumée grise, la sagesse, les mots, les palabres, les vieux, la cadence, les mains, la mesure, les mains, les piétinements, le sol, rendez-les-moi mes poupées noires, poupées noires, noires. Noir.
Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de poèmes de Léon Gontran Damas.